Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h.
L'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération.
Bruno Le Maire veut bloquer le mariage entre deux géants de la distribution, pourtant complémentaires dans leur modèle et leurs implantations. Mais l'État français a-t-il le pouvoir de refuser les projets de groupes privés dont il n'est pas actionnaire ? Réponse dans une seconde. Alors, est-ce que small is beautiful ? Rester modeste, c'est pas si mal. Le groupe Renault laisse tomber la course à qui vendra le plus de voitures et se concentre sur la rentabilité, avec au passage la touche nostalgique des 4L, des R5 électriques, bientôt en concession. Ce virage stratégique, c'est le dossier d'Europe 1. Dans ce journal, l'impossible traque du variant britannique du virus, les laboratoires sont débordés. Et puis Donald Trump aura fait l'histoire, c'est confirmé. Premier président des États-Unis à subir deux fois une mise en accusation, le fameux impeachment.
On attend Jean Castex à 19h. Ce matin, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, dans ce studio à 8h15. La gestion de la pandémie, les nouvelles restrictions que l'on attend, les entreprises en difficulté aussi et le monde du travail qui doit s'adapter. L'interview de Sonia Mabrouk juste après ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On découvrait hier l'existence même de ce groupe canadien baptisé Couche-Tard. 15 000 magasins, 22 milliards d'euros de capitalisation boursière et ses projets de rapprochement avec Carrefour, notre Carrefour pionnier français du concept d'hypermarché.
Couche-Tard proposait un mariage à 16 milliards d'euros. Mais sur France 5, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a fermé le banc.
Carrefour, c'est un chaînon essentiel dans la sécurité alimentaire des Français, dans la souveraineté alimentaire à laquelle je suis viscéralement attaché comme ministre de l'économie et comme ancien ministre de l'agriculture. Et j'ai vu pendant la crise de la Covid, le premier confinement, à quel point la sécurité d'approvisionnement, c'est vital pour nous tous. Le jour où vous allez chez Carrefour ou chez Auchan ou chez Leclerc et qu'il n'y a plus de riz, qu'il n'y a plus de biens essentiels, vous faites comment ? Donc ce qui est en jeu, c'est la souveraineté alimentaire des Français. Donc de ce point de vue-là, l'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération.
Et pour décoder ce que dit le ministre, nous sommes avec le chef du service économie d'Europe 1.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
L'État n'est pas au capital de Carrefour. Il peut quand même s'opposer à cette fusion ?
Oui, hein, et très facilement, la sécurité alimentaire des Français est jugée stratégique. On vient d'entendre ensemble l'argument de Bruno Le Maire. Et parce qu'elle est jugée stratégique, elle a été ajoutée l'an dernier à la liste des secteurs pour lesquels la France peut dire non à des investissements étrangers. Donc Bercy a un vrai outil de blocage. Et je peux vous dire que si l'opération devait avancer, le ministère de l'économie compte bien s'en servir. Couche-Tard, selon ce décret, ne pourrait pas détenir plus de 25% de Carrefour, ce qui rend l'opération beaucoup moins intéressante. À Bercy, où l'on a appris l'information par la presse hier matin, on estime que Carrefour a tous les moyens pour se développer seul et on est prêt, dit-on, à accompagner l'entreprise pour continuer à se transformer.
Merci Emmanuel Duteil.
Je vous renvoie vers l'éclairage éco de Nicolas Barré, c'était à 7h15. Carrefour, est-ce que c'est une entreprise stratégique ou non ? Ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, rappelait Nicolas Barré. Attention, ce choix à double tranchant, le risque de renvoyer l'image d'un pays fermé, nous disait Nicolas.
Alors, pas de révolution, donc, a priori, chez Carrefour. En revanche, vous connaissez la Renault Clio, la Renault Espace. On va découvrir aujourd'hui la Renault Lution. Ce n'est pas un nouveau modèle, c'est la promesse du nouveau patron du constructeur, avec donc des annonces renaultlutionnaires, paraît-il. Bon, ça c'est pour le marketing. L'info, c'est que le nouveau directeur général Luca De Meo présente son plan stratégique après deux longues années de difficultés internes. Baisse des ventes, affaire Carlos Ghosn et crise sanitaire.
Bonjour Aurélien Fleurot.
Bonjour à tous.
Vous êtes le spécialiste transport d'Europe 1. Quel sera le message ce matin ?
Alors cette révolution de Renault, elle peut d'abord se résumer en une formule, vendre moins mais vendre mieux. Luca De Meo va officiellement acter la fin de la course au volume, peu importe si Renault avec Nissan ne se bat plus pour être le numéro 1 mondial. Il va plutôt lorgner vers le modèle impulsé par Carlos Tavares chez PSA, c'est-à-dire la rentabilité avant tout. Et cela veut aussi dire proposer une offre nouvelle, explique Arnaud Aimé, spécialiste automobile au cabinet Sia Partners.
Aujourd'hui, Renault est reconnu surtout sur les petits modèles, ce qu'on appelle le segment B, des Clio, des Twingo, qui se vendent très bien en France et en Europe, mais qui ne sont pas les modèles les plus rentables. Donc, il y a une idée de monter en gamme, de monter sur le segment des Mégane. Et puis, il y a aussi l'idée de vendre pas seulement des voitures, mais aussi du service. C'est-à-dire que tout au long de la vie du véhicule, on va chercher à vendre des abonnements, des prestations. Et ça, c'est permis notamment par les véhicules connectés.
Et cette diversification des ressources, eh bien, ce sera un axe majeur de la nouvelle stratégie de Renault. Cela doit représenter à terme près de 30% du chiffre d'affaires.
Alors, ce nouvel élan pour Renault, il est donc incarné par cet Italien, Luca De Meo. Que va-t-il annoncer aujourd'hui ?
D'abord, une stratégie claire, marque par marque, hein, pour réduire les coûts, proposer des gammes de véhicules plus complémentaires. Renault, de l'électrique et une montée en gamme. Dacia, des voitures bon marché et modernisées. Et puis Alpine, pour la touche sport, plaisir. Luca De Meo, c'est un grand pro du marketing. Il a réussi la relance de la Fiat 500 en jouant sur la nostalgie, le côté rétro, des valeurs sûres. Cela passe par exemple, vous allez écouter, par cette musique. Ça me parle sûrement. Ça, c'est la version 2021 du tube de Robert Palmer qui accompagne les pubs Renault depuis 1984. Et puis surtout, il va relancer des modèles iconiques. Vous allez découvrir ce matin le retour de la R5 et de la 4L en version 100% électrique. Alors on parle pour l'instant de concept car, on est plus là pour faire rêver, travailler sur l'imaginaire de la marque.
On en voit encore des 4L et des R5, on va pouvoir les comparer, les modèles d'antan si j'ose dire, et les modèles électriques aujourd'hui, la R5 en électrique, pourquoi pas cela dit.
Alors Aurélien, il y a eu un plan d'économie chez Renault de plus de 2 milliards d'euros, 4600 postes supprimés en France. Est-ce que Luca De Meo a pu apaiser ce climat social ?
C'est vrai qu'il a eu la chance, si on peut dire, d'arriver après l'annonce du plan. Il est donc plutôt vu comme celui qui va relancer la machine, et ce qui rassure les salariés, c'est son parcours chez Fiat au sein du groupe Volkswagen, sa connaissance du secteur. Il pue l'automobile, me disait un représentant du personnel. Mais tout n'est pas réglé pour autant. Les syndicats attendent des précisions sur l'avenir des usines. C'est donc dans un contexte très incertain lié à la crise sanitaire que Luca De Meo devra vite faire ses preuves.
Le dossier d'Europe 1, je réfléchissais à ce que c'est que l'odeur de l'automobile. Parce que ça aussi, ça a évolué avec le temps. Ça sent plus l'embrouillage et le
masque. C'est plus électrique.
L'embrouillage, c'est un lapsus intéressant. Non, je regardais la Renolution. Ça, c'est pas la meilleure invention. C'est dur à.
C'est la manière dont il présente ce plan, effectivement, de manière officielle ce matin.
Faut penser international. Renolution. Merci Aurélien Fleureau du service économie de la rédaction.
Nous voilà au matin d'une nouvelle conférence de presse. On ne les compte plus ce soir, 18h. Jean Castex et 6 de ses ministres, ceux des points sensibles du moment. Éducation, enseignement supérieur, culture et bien sûr santé, travail, économie. On le disait dans le journal de 7h, on s'attend à un couvre-feu dès 18h partout en France, car même si les contaminations n'ont pas encore explosé, on sait que le variant anglais net plus contagieux représente déjà 1000 cas sur le sol français.
Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Le décompte est de plus en plus difficile à tenir. Des nouveaux cas et des clusters émergent un peu partout.
Oui, prenons simplement un exemple. Sur 826 tests PCR positifs réalisés jeudi et vendredi dernier par un groupe de laboratoires d'Île-de-France, 74 cas suspects du variant anglais ont été retrouvés. Et chaque coup de fil passé à un laboratoire nous fait découvrir des nouveaux cas, et ce, dans presque toutes les régions. Autre élément qui prouve bien que le décompte est de plus en plus difficile à tenir, il existe plusieurs clusters sur lesquels le ministère de la Santé n'a pas encore communiqué. De nouveaux foyers de contamination, par exemple, ont été identifiés dans le sud, à Fréjus et à Biot, 6 cas confirmés au variant anglais hier matin, alors que les tests PCR suspects avaient été envoyés pour séquençage. Vous savez, cette méthode qui permet de valider qu'on est bien en présence de la souche anglaise, le 27 décembre dernier. Le résultat est donc tombé 17 jours plus tard, ce qui veut dire que pendant plus de 2 semaines, ces personnes revenant d'Angleterre se savaient positives au coronavirus, tout en ignorant qu'elles avaient contracté le variant anglais. Et comme ce virus est beaucoup plus contagieux, ces 6 malades ont donc potentiellement contaminés, plus leur entourage.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1. Et si vous avez plus de 75 ans, c'est aujourd'hui que démarrent les prises de rendez-vous sur les plateformes. Vous avez le choix, Doctolib, Maya et Keldoc pour la vaccination.
Deuxième information importante ce matin, les laboratoires qui font ce séquençage. Victor Delande, ils sont complètement sous l'eau.
Oui, tout à fait. Les centres nationaux de référence ainsi que les plateformes locales, les seuls pour le moment habilités à séquencer pour valider qu'il s'agit bien d'un cas positif au variant anglais, sont totalement débordés. Selon nos informations, des laboratoires privés pourraient séquencer eux-mêmes les tests PCR dans les prochains jours pour traquer plus vite les cas de variant anglais et éteindre ainsi plus efficacement les chaînes de contamination.
Merci beaucoup Victor Delande.
Vous restez bien avec nous dans un tout petit instant, c'est historique. Donald Trump mis en accusation pour la 2e fois de son mandat. Même des élus républicains ont voté contre lui. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h11. La suite du journal, François Geffrier.
C'était une figure clé de l'UDF, puis du Modem et la cheville ouvrière des batailles électorales de François Bayrou. Marielle de Sarnez a été emportée hier soir par une leucémie à 69 ans. Emmanuel Macron confie qu'il perd une amie. Des hommages de toute la classe politique, de Jean-Pierre Raffarin jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Aux États-Unis, de CNN à Fox News, tous les médias américains ont choisi le même titre. Impeached again. Donald Trump, de nouveau mis en accusation. Ça n'était arrivé à aucun président avant lui.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 à New York. Donald Trump est donc renvoyé en procès devant le Sénat par les élus de la Chambre des représentants.
Oui, 232 élus, la totalité des démocrates et 10 républicains, ont voté en faveur de cet impeachment dans un congrès totalement bouclé par la garde nationale. Les démocrates ont dénoncé parfois avec émotion le comportement du président. Personne n'est au-dessus des lois, c'est un danger évident et immédiat pour la nation, d'après la chef de la majorité, Nancy Pelosi. Des critiques sont également sorties des rangs républicains. Le leader de l'opposition, Kevin McCarthy, a estimé que Donald Trump avait sa part de responsabilité dans l'attaque de la semaine dernière, mais qu'un impeachment serait une grave erreur qui attiserait la division. Et donc le président peut encore compter sur une solide base. 197 élus républicains n'ont pas voté cette mise en accusation.
Et alors Alexis, dans la soirée, Donald Trump a publié une vidéo.
Oui, sans un mot sur ce second impeachment, mais avec un message d'unité.
Aucun de mes vrais partisans ne peut approuver la violence politique. Aujourd'hui, j'appelle tous les Américains à surmonter les passions du moment et à s'unir.
Mais Donald Trump va bien connaître un second procès au Sénat. La date reste inconnue. On sait simplement qu'il ne se tiendra pas avant le 20 janvier et l'investiture de Joe Biden, avec en jeu pour ce procès l'interdiction pour le président de briguer un futur mandat.
Alexis Guilleux en ligne des États-Unis pour Europe 1. Puis confidence étonnante au passage. Jack Dorsey, le patron de Twitter, assume d'avoir supprimé le compte de Donald Trump, même si pour lui c'est un précédent dangereux, un échec de notre part, dit-il, à promouvoir une conversation saine.
François Geffrier, c'était le journal de 8h. Merci beaucoup François. 8h13, on retrouve Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Tant que durera la crise, les dispositifs d'aide et de chômage partiel seront prolongés, promet le gouvernement. Alors jusqu'à quand? Comment financer? Qui va financer? N'est-il pas temps aussi de se poser toutes ces questions? Notre invité, la ministre du Travail, Elisabeth Borne. À tout de suite.
Il est 8h13.